Bonjour, Nouvelle Vie, ça va bien? Bonjour, tellement content d'être avec vous ce matin, Nouvelle Vie, La Prairie. Est-ce que vous vous attendez à la guérison? Nous avons chanté « Je m'attends à la guérison, j'ai confiance en la guérison ». Est-ce que ce matin, vous vous attendez vraiment que Dieu peut agir dans ce lieu? Amen. Je crois et je suis dangereusement en forme. Effectivement, Pasteur Jacques, on a eu ce matin à la première réunion un temps extraordinaire, un temps de prière à la fin. Et vraiment, j'étais touchée de voir Dieu agir. Parce que quand Dieu dépose une parole dans notre cœur, on attend à voir le miraculeux prendre place. Et il est fidèle et sa parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Et je suis dangereusement en forme parce que je suis en pleine étude durant tout l'été, je lis des ouvrages. Je suis en train d'écrire un prochain livre sur la science et la foi et je découvre encore plus comment Dieu créateur est le Dieu tout-puissant, comment la création pointe vers un Dieu créateur et comment même les scientifiques athées commencent à mettre l'hypothèse d'un principe créateur. Et nous, nous savons de toute éternité que nous connaissons ce grand Dieu tout-puissant. Amen. Est-ce qu'on peut, juste en commençant, acclamer même un cri de joie, de victoire? Vous savez, c'est un privilège de pouvoir se rencontrer à tous les dimanches. C'est un privilège d'avoir cette liberté-là. C'est un privilège que le voile a été déchiré, que j'ai accès ce matin à la puissance de la croix. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es privilégié ce matin. Tu es privilégié. Et c'est vrai, on n'est pas ici pour jouer à l'église et prendre les choses pour acquis. Ici est un lieu de guérison et de transformation. Un jour où Dieu peut faire le miracle dans ta vie. Et on va parler, le thème de mon message, c'est la guérison des émotions. Et avant de parler, la guérison de nos déceptions. Et avant de parler de déception, j'aimerais qu'on puisse parler de l'espoir. L'espoir, la parole de Dieu nous parle abondamment de l'espoir. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Dieu veut te redonner l'espoir. Peut-être que tu es rentré dans ce lieu. Personne ne le sait. Tu as un beau sourire, tu es fantastique, tu es bien habillé, tu es fraîche comme une rose, tu es incroyable, mais personne ne sait quel est l'intérieur de ton cœur. Mais si jamais tu as perdu l'espoir, Dieu est ici pour te redonner l'espoir, peut-être dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans une destinée qui s'ouvre à toi. Et dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner, de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te donner, t'a donné un avenir et de l'espérance. Un avenir t'a donné de l'espoir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 18, il est écrit, « Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. » Je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais moi, ça me fait du bien quand j'ai préparé ce message. Je me dis, « Seigneur, il y a de l'espoir pour ma vie. Il y a de l'espoir pour mon avenir. » Dans Jérémie, chapitre 31, verset 17, il y est écrit, « Et peut-être qu'il y a des parents, vous avez besoin de le saisir, de vous l'approprier ce matin. Il y a pour tes descendants une espérance, un espoir. L'Éternel le déclare, tes enfants reviendront dans leur pays. Amen. Est-ce que des parents, vous avez besoin de prendre ce verset-là pour vous ce matin comme une promesse de dire, il y a de l'espoir. Mes enfants, s'ils se sont éloignés, vont revenir dans leur pays, dans la foi. On parle d'espoir. Si je vous demandais, qu'est-ce que c'est? La définition du dictionnaire, c'est assez simple, ça dit, l'espoir, c'est le fait d'espérer. C'est profond, n'est-ce pas? Le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, que l'on souhaite ou que l'on désire. Est-ce que ce matin, même si tu es chrétien depuis Abraham, que tu as accepté Jésus en même temps que Josué, est-ce que ça fait peut-être des années que tu pries et tu pries pour certaines des choses? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as perdu l'espoir? C'est-à-dire, est-ce que tu as perdu l'espoir d'attendre avec confiance? Tu n'espères plus ou tu n'oses plus espérer la réalisation de quelque chose que tu attends. Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est écrit, « L'espoir est une ancre pour mon âme. Et quand on va sortir de ce lit, j'ai prié pour la première réunion, les gens qui sont venus. Et je voyais quand je me préparais tôt ce matin, que lorsque nous allons sortir ce dimanche, que le Seigneur va avoir mis comme une ancre. Si le vent souffle, l'espoir va être redonné dans ta vie, dans ton mariage. Je dis, je suis ancrée parce que c'est possible d'espérer encore le miraculeux. Hébreux, chapitre 10, verset 23, il s'est écrit, « Restons fermement attachés à l'espérance, à l'espoir, que nous connaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et quand on regarde ce verset-là, ce qui est touchant, c'est qu'on peut avoir espoir, retrouver l'espoir, parce que celui qui a fait la promesse, celui qui le fait la promesse, c'est le Dieu créateur, qui crée bara à partir de rien, qui fait une création ex nihilo, qui crée les milliards et des milliards et des milliards et milliards et milliards d'étoiles, et que ce même Dieu-là s'est fait 100% qu'il était, 100% divin, est devenu 100% humain, afin que nous soyons réconciliés. Maintenant, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, tu as accès à toute cette puissance-là, à tout cet espoir-là. Quand on dit qu'on peut mettre notre espoir dans celui qui est digne de confiance, je parlais avec quelqu'un cette semaine et elle me parlait au sujet des défis qu'elle avait dans sa vie. Et elle m'a dit, « Oh, moi, de toute façon, j'ai lancé ça dans l'univers. » Dans l'univers, j'ai dit, t'as lancé ça dans un univers qui était grand à des centaines et de millions, millions d'années-lumière qui nous revient jusqu'ici. L'univers, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est tout et c'est vide et c'est rien. Moi, mes défis, je les donne au Dieu Tout-Puissant qui me connaît, qui sait qu'il y a un plan et des projets de vie pour ma vie. Et quand je regarde ce texte-là, on peut mettre notre espoir parce qu'on a confiance en qui on met notre espoir. C'est ça qui nous rassure. Mais la partie, ce qui m'a frappée lorsque j'étudiais, c'est la première partie du texte. Ça dit, restons fermement attachés à l'espérance. Si je te dis, reste attaché à quelque chose, il est possible, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est qu'il est possible de perdre espoir. Êtes-vous d'accord avec moi? Il est possible, même si on aime Jésus, même si on lit notre Bible, même si on vient à l'église en plein milieu du mois d'août, alors qu'il fait si beau, il est possible qu'à un moment donné, on se détache, on a peur, on a perdu l'espoir. C'est comme si, vous savez, c'est comme si des fois la vie nous a tombé dessus. Si on se prépare pour la diabète, je voulais, veux-tu la mettre? Voici, des fois, c'est comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi? On a l'impression, qui a déjà eu l'impression, vous pouvez rire, c'est permis, mis dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Qui a déjà eu l'impression d'avoir le monde entier sur ses épaules? Oh, que ce soit un téléphone, la santé, que ce soit, peu importe, tes défis financiers, l'hypothèque, tout ce que tu veux. Des fois, tu as l'impression que le monde est sur tes épaules. Et c'est ce qui fait que quand on a l'impression d'avoir le monde sur nos épaules, savez-vous, quand on vit une tempête, une crise, bien souvent, des fois, on dit, les tempêtes, ça nous éloigne de Dieu. C'est pas tout à fait vrai. Les tempêtes, moi, dans mon cas personnel, quand j'ai une tempête, je m'accroche à Dieu parce que j'en ai besoin. Mais aujourd'hui, je veux dévoiler l'ennemi numéro un de notre foi. Ne sont pas les tempêtes ou les défis, c'est la déception. La déception tue ta foi petit à petit. Tu commences à croire, oh, t'es déçu. Oh, finalement, OK, je me recrinque un peu. OK, je repris un peu. J'y crois, je le déclare. Ça marche pas. Oh, je suis déçu. Oh, vous savez ce que je veux dire? La déception, c'est lorsque la réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. Tu pensais que ça allait être ça, puis ta vie, c'est ça. Tu pensais que tes enfants allaient être comme ça, puis ils sont comme ça. Et c'est exactement ça. Pour mieux vous illustrer, quelle est la déception? Vous avez, c'est le privilège d'avoir des fois des prédicateurs féminins. Alors, je vais me permettre une illustration féminine qui peut aussi s'adresser aux hommes. Mais est-ce qu'il y a des femmes, particulièrement les femmes, on aime magasiner, soyez honnêtes, vous n'êtes pas toutes détachées des biens de ce monde, qui aime magasiner chez Winners? Dans ma team, là. Et vous savez, chez Winners, le plaisir, c'est de fouiller et de trouver l'aubaine. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, tu sors du magasin et tu dis, « Mais j'ai fait un deal. » Et moi, le lundi, c'est ma journée de congé. Et je vais m'entraîner. Et après mon training, mon gym est à côté d'un Winners, voyez-vous? Et moi, je confesse mes péchés ce matin. Moi, j'aime les souliers. Qui aime les souliers aussi? Ça, c'est masculin. Il n'y a pas de genre dans ça. Et moi, j'aime les souliers. Et mon verset favori est, « Qu'ils sont beaux les pieds de celles qui amènent la bonne nouvelle. » Amen! Vous êtes avec moi? Alors, je me dis que les souliers, ça prend des beaux souliers pour prêcher. Et j'ai un fait particulièrement pour le soulier noir. Le soulier noir qui se décline en 20 espèces de façons. On n'a jamais assez de souliers noirs. Et là, je suis chez Winners. Et au grand désespoir de mon mari, je vous le dis. Et là, j'arrive et je vois des souliers noirs. Et là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et là, je les tourne et c'est marqué 49,99. Le deal sont signés. J'ai dit, je mets ça dans le panier. Et vous savez, tu sais, je m'en vais tout fièrement à la caisse et je mets devant la caissière fièrement mon soulier à 49,99. Je sors mon argent. Elle les tourne, elle commence à pitonner. Elle me dit, madame, c'est 149,99. Déception! Vous avez vu l'idée? Vous sentez l'idée? Je pensais que j'avais un deal et finalement, pas du tout. Alors, j'ai laissé les souliers là et je suis partie avec mon petit bonheur déçu. Et là, vous comprenez l'idée que dans la vie, il y a bien plus décevant qu'une paire de chaussures. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est exactement la vie, c'est que tu penses. Et ça, je peux me permettre un peu à la deuxième, tu sais, c'est pareil comme la perte de poids. Tu sais, quand tu penses que tu as jeûné et que tu manges rien, puis que tu embarques sa balance puis que tu n'as pas perdu une livre, là, déception. Vous pouvez l'appliquer à plein d'aspects dans votre vie. Mais l'aspect le plus triste, c'est quand tu pries puis tu crois en quelque chose profondément, puis que tu arrives puis tu fais face à la réalité, puis ce n'est pas ce que tu pensais. Quand tu pries pour tes enfants, puis que tu jeûnes, puis tu les amènes à l'école du dimanche, puis que tu as prié, puis que tu as aimé, puis tu as donné, puis tu as payé, puis tu as prié, puis tu as aimé, puis tu as donné, puis tu as payé, puis tu as prié, puis tu as aimé, puis tu as payé. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu? Yes! Vous êtes avec moi. Et que tu penses qu'ils s'en vont là, puis ils sont dans une saison de leur vie, puis ils sont là. Tu sais, qu'ils ne sortent pas du sous-sol, là, puis qu'ils sont toujours devant l'ordinateur. Tu penses que c'est ça, puis en ce moment, c'est ça. Un mariage, tu es marié, tu aimais Dieu, fidèle, vous avez changé vos vœux, puis c'est pour la vie. Puis en ce moment, c'est atroce, ça fait mal, c'est la douleur, déception. Une carrière, je pensais avoir une promotion, moi. J'ai donné, j'ai servi mon boss fidèlement. Personne n'a vu mes sacrifices. Puis là, il y a une promotion, puis c'est le petit jeune qui vient d'arriver qui l'a. Vous comprenez ce que je veux dire? Déception. Et la déception peut nous éloigner du plan de Dieu. Robert Schuller a dit, « Laisse l'espoir, non tes déceptions, diriger ton futur. » Et le texte qu'on va partager ensemble, c'est dans l'Évangile de Luc, un des textes aujourd'hui qu'on va voir. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, verset, on va regarder à partir du verset 13 à 21. Et je me suis mis dans la peau des disciples, dans la Bible des endroits, et j'aime tellement la transparence, la véracité de la Bible. Quand tu lis ça, moi, j'embarque dans l'histoire. Vous savez, j'ai même plus besoin de regarder, de lire des livres, peu importe. Juste t'embarques, tu lis la Bible, là, puis là, je me mets. Et l'histoire qu'on va partager ensemble, le récit, c'est un récit qui a pris place, qui est vrai. Et c'est les disciples, ça prend place quand, après la crucifixion, quand Jésus est mort. Et là, tu as deux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Et là, ils sont tous les deux ensemble. Et ils ont le cœur dans l'amertume. La Bible nous dit, ils ont le cœur brisé. Ils ont le cœur tout en envers. Parce que, ils aimaient Jésus comme leur frère, leur ami. Il a de la peine. Ils viennent de perdre Jésus. Jésus est mort. Deuxièmement, un rêve qui est brisé parce qu'ils étaient certains, Jésus pour eux était le Messie qui devait venir. Imaginez la désillusion. Et croire en Jésus à cette époque-là, c'était à contre-courant. Ils ont été persécutés, ils ont donné de l'argent, ils ont suivi Jésus, ils ont tout abandonné. Un rêve, dire oui, c'est notre Messie Puis le Messie est mort. Tu perds ton ami, tu perds ton Messie, tu perds... Là. Et là, ils sont là, ensemble, sur le chemin d'Emmaüs. Et le texte va comme suit dans l'Évangile de Luc, verset 24, verset 13, ça dit, « Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. » Ils parlent de la mort de Jésus. Ils étaient tous les deux à marcher. Puis au lieu de s'encourager, là, ils pleuraient, puis ils se décourageaient l'un et l'autre. Et là, ça dit, pendant qu'ils échangeaient leurs propos, leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Et moi, j'étais fascinée parce qu'imaginez, ils sont dans une telle tristesse, mais pour le sujet qui les attriste, la personne dont ils ont de la peine, s'approche et marche avec eux. Wow! Quelque chose! Arrêtez-vous! Quelle aurait été votre réaction? Il n'y en a plus de problème. Jésus est là. Voyons donc. Non, la Bible nous dit, au verset 15, Jésus s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? » leur demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète. C'est fascinant parce que dans leur peine, leur déception, Jésus n'est plus le Messie. Il est devenu prophète. Dans nos peines et nos déceptions, et soyons honnêtes, on n'est pas ici pour s'impressionner. Moi, j'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs, si vous êtes honnête, de penser que tu vis quelque chose, peut demander, tu crois encore en Dieu, mais cette souveraineté-là, cette puissance-là, tu commences à dire, hey, il peut-tu le faire? Il n'était plus Messie, là. Il était prophète. Et verset 20, ça dit, nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort, cloué sur une croix. Puis regardez verset 21, nous avions espéré qu'il était celui qui allait nous délivrer, mais hélas, voilà déjà trois jours qu'il est mort. Et je veux t'encourager ce matin que dans cette situation-là, au plus profond de leur désespoir, Jésus n'avait pas arrêté de marcher avec eux. Peu importe ce que tu traverses, Jésus marche toujours à tes côtés. Le problème n'est pas du côté de Jésus. Le problème est du côté de notre façon de voir les choses. Et rappelez-vous ce que je vous ai lu, j'ai arrêté, j'ai dit, « Et leurs yeux ne pouvaient pas le voir. » Lorsqu'on est pris dans une déception, dans une tristesse, on ne voit plus rien. On n'est plus capable de voir Jésus qui marche à nos côtés. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous suivez le texte, au verset 28, ça va nous dire, « Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux et prit le pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. » Verset 31, « Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus veut entrer en communion avec toi et il est capable ce matin d'ouvrir tes yeux afin que tu le vois marcher sur ton chemin d'Emmaüs. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu que vous avez besoin que Jésus vienne ouvrir vos yeux afin que vous redonniez espoir sur votre chemin? Et c'est fascinant parce que la suite du texte, ils se dirent l'un à l'autre, verset 32, nous n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur? Ils commencent à reconnaître. Jésus se manifeste physiquement, ils ressentent sa présence. Et à la fin, ils sont capables de déclarer, le Seigneur est réellement ressuscité. Et je veux te dire ce matin que la crucifixion, le lieu qui avait l'air du plus grand lieu de défaite, est devenu le plus grand lieu de victoire. Et c'est la même chose dans ta vie. La crucifixion n'a pas pu empêcher le plan de Dieu. Il a contribué au plan de Dieu. C'est la même chose. Ton plus grand lieu de défaite, qui semble un lieu de défaite, Dieu peut le changer en lieu de miraculeux et en lieu de changement. Il peut te donner aujourd'hui la foi de retrouver la vue et te dire, ne regarde pas au moment présent. Les disciples, lorsqu'ils ont juste regarder à la croix, c'était défaite. Mais quand Jésus rouvrent leurs yeux, ils s'aperçoivent que oui, Jésus est vraiment ressuscité. Et rappelle-toi qu'au-delà de la déception, même la crucifixion ne peut empêcher, même la plus grande défaite de ta vie ne peut pas empêcher Jésus d'agir. Amen. Vous allez voir. Je sais qu'est-ce que c'est quoi. Lorsqu'on parle d'espoir et de déception, je l'ai senti à la première réunion. C'est la première chose. Tu le sens? Et là, la prédicatrice est en train de travailler au cœur. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu dis oui. Ah oui, ça marche, ça, sur le chemin d'Emmaüs. Oui, mais dans ma vie. Qui aime aller au cinéma? Soyez à l'aise. Moi, j'ai dit à la première. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans dans une petite église très légaliste. Et à cette époque-là, on était enseigné que si Jésus revenait, et peut-être que vous le pensez encore, mais je veux vous libérer complètement. Si Jésus revenait pendant qu'on était au cinéma, on n'allait pas au ciel. Donne un coup de coude à ton voisin, ta voisine. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien plus profond que ça qu'un cinéma. Et mon fils et moi, j'ai un fils de 24 ans, et quelque chose qu'il aime beaucoup faire, et c'est qu'on développe ça ensemble parce que ça nous permet de passer du temps et de discuter. On aime aller, mais plus que lui, il est très cinéphile, donc on va au cinéma ensemble. Et moi, il aime ça être avec moi, mais à un moment donné, oh man, arrête! C'est que moi, spoil, tu sais, je dis la fin, oh non, ça va se terminer, ça vous est-tu arrivé? Oh non, non, regarde, c'est ça qui va arriver comme ça, ou c'est ça, ou tu sais, ou des fois, je l'ai déjà vu dans l'avion, puis je dis la fin, puis il dit, oh, avouez que c'est poche, aller au cinéma ou écouter un Netflix avec quelqu'un qui dit la fin de la patente. Hein? Et là, puis moi, je prends plaisir à le faire. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et là, finalement, on écoute un film, on est au cinéma, et là, l'histoire se termine fin. J'ai dit, non, pas déception, le menton à terre. Genre, ah oh ben là, je ne l'ai pas vu venir. Ah oh ben là, il m'a eu comme, ça c'est les meilleurs livres, les meilleurs films, quand tu dis, mais je ne l'ai pas vu venir. Et je crois que Dieu m'a donné une pensée prophétique pour ma propre vie, avec mon fils. C'est comme si le Seigneur me disait, tant que le mot fin n'est pas arrivé dans le film de ta vie, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est jamais terminée avant que Dieu ait mis le mot fin. L'histoire de ta vie, l'histoire de ta situation, comme les disciples, c'est jamais terminé. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et j'ai fait une petite acrostiche, par exemple, comme le générique, dans un générique d'un film, le rôle principal de ta vie est à Dieu. Les rôles secondaires, toi, ton fils, ton travail, c'est des rôles secondaires. Et la déception devrait être juste un figurant dans ta vie. Dieu n'a pas terminé tant que le mot fin n'est pas là. Et il y a quelques années de ça, j'ai apporté la parole en France. Et il y avait une femme que je connais bien, une amie à moi. Et puis, j'avais apporté l'idée que le film de ta vie n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas mis le mot fin. Et elle avait été touchée. Elle est venue me voir après la réunion. Elle m'a dit, écoute, Stéphanie, je le prends par la foi parce que j'ai élevé ma fille dans les voies de Dieu pendant des années. On s'est investi. Puis ma fille s'est éloignée des voies de Dieu, partie consomme la drogue, comme des relations qui sont malsaines, était vraiment loin. Elle m'a dit, je saisis, je prends par la foi et je me dis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et elle a décidé par la suite qu'elle priait. Elle s'est engagée dans un acte, dans ça, de dire, je vais croire que ce n'est pas fini. Et il y a, en janvier dernier, je suis allée apporter la parole à une église sur Paris qui s'appelle MLK, qui est une très belle église sur Paris. Et cette dame-là vient me voir, on ne s'était quand même pas revus depuis ce temps-là, elle a dit, je veux te dire quelque chose. Le film de l'histoire de ma fille n'était pas fini avant que Dieu avait mis son mot fin. Fait qu'elle me dit, oh, j'ai dit, wow! Elle me dit, ma fille va se marier. Mais tu sais, moi, je dis, des fois, ça peut être positif ou négatif. Donc, pastoralement, je dis, ah oui, c'est intéressant. Elle dit, je veux juste te dire que quand tu as prêché ce message-là sur le film de notre vie, j'ai pris par la foi l'engagement de prier pour elle, mais de mettre de l'argent de côté à tous les mois pour payer sa robe de mariée. Parce que je me suis dit, je vais prier qu'elle revienne à Dieu, qu'elle rencontre un homme qui aime Dieu et elle, c'était son geste de foi. Et lorsqu'elle m'a dit, je veux te dire que ma fille va se marier. Elle se mariait dans le mois qui suivait, puis ma fille va avoir la plus belle belle robe de mariée parce que ça fait 3 ans que je mets de l'argent de côté. Dites amen avec moi au roi des rois, à celui qui n'a pas fini dans nos histoires tant que le mot fin n'est pas arrivé. Je pense que vous, Nouvelle Vie La Prairie, vous pouvez faire mieux que ça au Dieu de miracles. On peut applaudir mieux que ça celui qui change des vies, celui qui ramène des enfants loin et qui les ramène à la bergerie, celui qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. Et je sais que je suis en train de travailler la boue et la terre. Et une des clés, comment, parce que je le sens, le scepticisme, je le sens. Dieu m'a donné toutes les révélations, je peux lire, c'est pas vrai. Je sais juste parce que je suis une femme de la même nature que vous et j'ai entendu je peux dire à l'âge que j'ai, des centaines et des centaines de messages sur l'espoir. Puis des fois, on veut y croire. C'est super pour la madame, c'est super pour toi, pasteur Stéphane, mais même ma vie, tu ne la connais pas. Une des clés pour pouvoir retrouver l'espoir, c'est s'attendre à l'inattendu. S'attendre à l'inattendu, c'est drôle de dire. Est-ce que tu es encore prêt aujourd'hui de croire que Dieu peut agir d'une façon inattendue, qu'il peut te surprendre? J'étais à Nouvelle Vie il y a quelque temps de cela, et dans mon bureau, et la façon dont mon bureau est situé, je peux voir la réception, elle est juste comme en diagonale comme ça. Et là, il y a un livreur qui est arrivé avec un bouquet de fleurs, je ne vous dis pas, immense, j'exagère, mais au moins un gros comme ça. Et là, bien sûr, curiosité de femme, je suis sûre que vous auriez fait pareil. Là, j'ai dit, je vais aller voir à la réception, c'est pour qui les fleurs, n'est-ce pas? Et là, je dis, ah, c'est beau les fleurs, c'est pour qui? C'est pour moi. Le bouquet de fleurs était pour moi. Là, je me suis dit, oh, c'est mon mari qui m'a envoyé des fleurs. C'est mon mari pasteur à l'église. Je me suis dit, oh, le coquin, il m'a envoyé ça à la réception. Finalement, pas mon mari. Déception. Non, c'est pas vrai. C'était pas mon mari, mais c'était encore plus surprenant. Et là, je regarde un nom. Il l'a dit. Ah, oh, j'ai dit, oh, oui. Imaginez qu'il y a un mois avant ce bouquet-là, j'étais, je ne sais pas si vous connaissez Exponentiel, tout le blog de Luc Dumont, ils font des capsules. Bref, si vous allez voir, c'est super ce qu'il fait Luc Dumont. Et sur Exponentiel, j'étais allée faire des capsules pour femmes. On a travaillé toute la journée, enregistré, ça a été long. On passe la journée, moi je m'en vais chez nous après, la vie continue un mois plus tard. Et là, c'est justement un mois, ce bouquet-là arrive. Et c'est cette femme-là qui m'avait invitée, puis qui s'est écrit « Merci ». Pour tout le temps de t'avoir déversé en nous, nous te remercions de ton passage parmi nous. Le Seigneur, je vous dis, le Seigneur me parle par de grandes révélations dans un cinéma, mais avec un bouquet de fleurs aussi. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, c'était, ça t'a surpris, hein, un bouquet de fleurs? Ça t'a surpris. Tu te surprends pour des fleurs, puis tu n'es pas encore capable de te surprendre que je peux faire quelque chose de grand dans ta situation. Vous avec moi? Le Seigneur, il m'a corrigé. Ça t'émerveille. Waouh! Un bouquet de fleurs. Tu crois que t'es sûr, tu ne t'attendais pas à ça. Est-ce que tu es encore prêt aujourd'hui? Et je te pose la même question. De croire que Dieu peut agir d'une façon surnaturelle. Amen. Et c'est là que ça prend tout son sens. On va regarder, on arrive tranquillement vers la fin du message. Comment retrouver l'espoir? Comment guérir de nos déceptions, c'est oser croire encore que Dieu agit d'une façon inattendue. Et c'est, quand je dis inattendu, c'est quelque chose que tu n'attends pas. Et dans Habacuc, chapitre 1, verset 5, c'est écrit, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. » Et prends-le pour toi ce matin. Je le prends pour moi personnellement. Comment réagir face à l'inattendu? On va regarder en terminant 3 clés, 3 personnages qui ont vu le miraculeux dans leur vie. Et comment ils ont pu voir le miraculeux? C'est dans la façon dont ils ont réagi. Premièrement, il y a 3 façons d'agir. 1, la réaction de Sarah. Vous savez, Sarah et Abraham, Dieu leur fait une promesse. Elle veut la promesse, mais elle a peur d'être déçue. Quand je parle ce matin, tu veux croire à nouveau que Dieu va le faire, mais ça se peut que tu as peur d'être déçu. Deuxième réaction qu'on va regarder, la réaction de Naaman. Naaman, il voulait l'inattendu, il voulait le miraculeux, mais à sa façon. Est-ce que toi aujourd'hui, tu veux le miraculeux, que tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, mais à ta manière, à toi. Et troisièmement, la réaction de Rhodes, qui s'appelle Rose, peut-être que vous ne la connaissez pas, je vais vous la faire découvrir. Comment on peut avoir l'inattendu? C'est par la prière. Et dans Genèse, la première réaction, la réaction de Sarah, l'inattendu, mais j'ai peur d'être déçue, c'est dans Genèse chapitre 18, et c'est l'histoire, je vais aller très vite, vous la connaissez, c'est lorsque l'ange de l'Éternel va arriver à Abraham, puis il va dire, Sarah est à l'entrée de la tente, elle voit ce qui se passe, puis elle voit l'ange, puis il va dire à Abraham, l'année prochaine, ta femme, là, à pareille date, elle va être enceinte. Mais la belle Sarah, elle n'y croit plus, parce que ça fait des années et des années et des années qu'elle attend. Puis elle dit, si j'y crois encore, est-ce que je vais me faire de la peine encore? La Bible nous dit, un espoir différé rend le cœur malade. Et si on est honnête dans notre quête d'être guéri de nos déceptions, d'encore avoir l'espoir qui renaît, il y a une portion de nous. Si vous attendez la promesse depuis longtemps, tu veux y croire, mais tu as peur d'avoir de la peine. Avez-vous déjà été là? Dites amen avec moi. Tu as peur d'avoir de la peine. Et ce qui m'a frappé, c'est dans ce texte-là, alors qu'elle rit d'amertume, de sarcasme, l'Éternel va dire à Abraham, pourquoi Sarah l'a-t-elle ri? Il va dire, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire de la part de l'Éternel? Et je veux te rappeler ce matin, il n'y a rien de trop extraordinaire, de trop brisé, de trop loin que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a rien d'impossible que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a rien d'impossible que Dieu ne peut pas rendre possible. Si vous êtes croyant et que vous connaissez Jésus-Christ, vous êtes obligé de dire amen à ça. Il y a ta situation, tes enfants, ton travail, il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de changer. C'est ta réaction. Ose croire encore que Dieu peut le faire. La deuxième façon de réagir, c'est Naaman. Naaman voulait voir le miraculeux, mais il avait son plan bien établi. Et ça, moi, là, cette portion-là, ça me touche particulièrement. Moi, je suis une Naamite, si vous voulez. C'est-à-dire que des fois, j'ai des idées préconçues. Si vous êtes avec moi, des fois, moi, bon, c'est entre vous et moi, là. Dites-le pas à Dieu, là, mais entre vous et moi, là. Des fois, j'ai l'impression, sans prétention, que ma façon de voir les choses ou que j'aurais fait les choses est meilleure que celle de Dieu. Êtes-vous d'accord? On est. Moi, des fois, Dieu, il fait... Je sais que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, mais je me dis, hey, Seigneur, la mienne est quand même pas pire pantoute, OK? Et j'ai tout faux. Et souvent, je passe à côté de bénédiction parce que je veux que ça soit A, B et C. Puis Dieu dit, je vais faire D, E et F. Non! Moi, je veux A, B et C. Mon mari, il va me demander pardon, il va m'acheter des fleurs, il va m'emmener au restaurant, puis c'est comme ça qu'on va se réconcilier. Bien, ça se peut que ça ne soit pas comme ça. Puis ça se peut que ça prenne plus de temps. Et une des illustrations, j'étais à EMCI, je ne sais pas si vous connaissez la station de télévision, et je suis partie de Sainte-Julie, et je m'en allais là-bas, qui est à quelque part dans les cantons de l'Est, et moi, j'ai zéro sens de l'orientation. Mais une des qualités qu'on a comme femme, c'est qu'on peut demander notre chemin. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je suis seule dans ma voiture et j'ai le plaisir d'avoir une femme qui peut faire un petit peu des blagues. Hein, pour une fois. Et j'étais dans ma voiture, je mets mon Waze et là, il faut que je me dépêche, c'est tôt le matin, il ne faut pas que j'arrive en retard, on est en train d'enregistrer des trucs. Et là, Waze, je le suis à la lettre, tourne à droite, tourne à gauche. Et j'étais déjà allée à EMCI. J'étais déjà allée là, mais je me souvenais de la rue. Et quand il arrive, j'arrive dans la rue, et moi, pour moi, dans mon esprit, la maison est à gauche. C'est comme les studios, c'est dans une maison, donc c'est là. Fait que là, Wes me dit, vous êtes arrivé à destination. Pour pas en tout, pas du tout, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Waze? C'est sûr que c'est Waze qui a tort. C'est pas moi, c'est Waze qui a tort. Et là, reprogramme le truc. Il me fait revenir. Tata. Dieu est mon témoin, c'est pas mon honneur. Je recommence. Il revient à même place. Vous êtes arrivé à destination. Je vous mens pas. Je l'ai fait trois fois. Je vous dis une autre grande révélation. Et J'irai pas plus loin avec ma couleur de cheveux, mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais l'air vraiment de ça. Et finalement, la pensée qui traverse mon esprit, j'ai la grande révélation. C'est comme ça dit, regarde donc l'autre côté de la rue. Je tiens à préciser que j'ai un doctorat en biochimie et un post-doctorat en biologie moléculaire. Alors, ne me jugez pas sur mes capacités, je fais des blagues. Mais juste pour vous dire comment tu penses que Dieu va agir. Tu es persuadé que c'est comme ça qu'il va le faire. Lâchez-moi pas, vous allez savoir. C'est comme ça. Puis le Seigneur me dit, tourne donc juste ta tête de 180 degrés. Parce que ça se peut que je le fasse de cette façon-là. Es-tu prêt à regarder ça? Et c'est exactement ce qui m'a frappé. Des fois, là, dans ma vie, une situation, dans ma maison, dans mes enfants, je pense, je veux que Dieu le fasse de même. Puis Dieu, il me dit, je vais te surprendre. Je vais te surprendre bien plus que ce que tu penses. Et c'est exactement ce qui arrive à Naaman. Dans le livre des Rois, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, c'est écrit, Naaman, je pense que Pasteur Sylvain, en plus, il a prêché sur ce sujet-là la semaine dernière, mais ça dit, Naaman, verset 1, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et c'est fou parce que c'est un homme riche, c'est un homme influent, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme d'impact. Et il va arriver, puis il y a une jeune fille du pays d'Israël qui va lui dire, il dit, Naaman, il va lui dire, si tu vas voir le prophète Élisée, il va te guérir. Et Naaman veut encore, pas comme Sarah. Sarah, elle, est à un espace où elle ne veut même plus y croire parce qu'elle a peur d'être déçue. Naaman, c'est différent. Il veut y croire encore, mais il va à sa façon. Il arrive, il dit, elle lui dit, va voir le prophète. Et les versets qui suivent vont dire, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et là, je vous dis, faites attention, ça, je vous dis, ça fait mal. C'est exactement, malheureusement, si on est honnête, c'est comme ça qu'on pense avoir le miraculeux. On arrive avec notre char, avec nos sicles d'argent, avec la façon, comme ça, moi, là, Seigneur, là, j'ai tout donné pour te servir. J'ai tout fait, j'ai tout laissé. J'ai laissé mon doctorat, ma carrière, j'ai tout fait ça. Puis moi, je vis ça. Moi, je vis ça dans ma maison. C'est pas juste. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Dieu n'est pas obligé de faire le miraculeux. Dieu ne fait pas le miraculeux basé sur nos bonnes œuvres. Tu ne peux pas marchander le miraculeux. Parce que si tu le fais, tu vas être déçu quand ça n'arrive pas. Et regardez ce qui arrive, la suite du texte. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Imaginez, moi, je lisais ça, je me suis dit, le gars, il est lépreux. Il y a quelqu'un qui va te dire, si tu vas te saucer quelquefois, tu vas être guéri. Amen, je cours dans l'eau, c'est fini, l'histoire est finie là. Non, ça dit que Naaman est irrité. Il est irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais. Combien de fois on s'est dit, voici, je me disais que c'était comme ça que ça allait être. C'était comme ça. Je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, ainsi de suite, à ma façon. Et je veux, aujourd'hui, je prie que nous puissions ouvrir notre esprit et laisser Dieu faire le miraculeux de la façon dont il veut le faire. Et n'oublie jamais que tout ce qu'il fait, Dieu est souverain. Il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser, même imaginer, dans sa grande souveraineté et son amour, il peut le faire. Mais c'est lui qui est souverain et c'est lui qui décide. Nous avons juste à rester ouverts. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils ont dit, si tu avais dit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et Naaman a obéi et l'obéissance de Naaman a déclenché la puissance de Dieu dans sa vie. Et alors que j'arrive à la fin du message et je vais inviter les musiciens à s'approcher, la troisième réaction pour avoir inattendu, j'ai dit, Sarah, laisse Dieu encore te laisser espérer. N'aie pas peur d'être déçu. Deuxièmement, ouvre tes pensées. Peut-être que ce n'est pas à ce moment-ci que Dieu va le faire. Peut-être que ce n'est pas de cette façon-là que Dieu le fait, mais ose croire encore qu'il est capable de le faire, car il est le Dieu Tout-Puissant. La dernière réaction, c'est la réaction de Rod. Est-ce que, peut-être Rod, ça vous dirait, moi j'ai une passion, j'aime étudier les personnages féminins. Et Rod, son nom c'est Rod, mais c'est Rose, c'est la femme, vous savez, c'est un texte que vous connaissez, c'est lorsque Pierre est en prison, qu'il est lié par des chaînes, il est sous la garde et il prie, l'Église est en train de prier pour que Pierre puisse être délivré. Et c'est Rod, c'est la femme qui a ouvert la porte à Pierre. C'est ce qu'elle a fait dans l'histoire, elle ouvre la porte. Juste vous rappeler, si vous êtes un peu des étudiants de la parole de Dieu, à cause des contextes culturels de l'époque, c'est très rare qu'on mentionnait le nom d'une femme dans la Bible. Très, très rare. Et en plus, Rod, cette femme-là, elle n'est qu'une servante. Pas un grand poste, pas une femme influente, Naaman qui est un homme. Elle, une simple servante. Et si la Bible prend le temps de mentionner son nom, c'est qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait de si extraordinaire? On va regarder le texte, le dernier texte qu'on va partager ensemble. La réaction de Rod dans Actes, chapitre 12, verset 1 à 17. Je vais vous faire un simple résumé de ces versets-là. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Pour vous mettre dans un contexte, c'est un contexte de persécution. Les chrétiens sont persécutés, sont mis à mort. C'est une période de haute tension. Et parce que ça plut aux Juifs, Hérode a décidé d'arrêter Pierre. C'est dans ce contexte-là qu'il l'a fait jeter en prison et qu'ils l'ont mis sous des verrous de fer. Et c'était les jours des pains sans levain, la Bible nous dit, que Pierre était sous des gardes. Et la suite du texte, il disait, « Hérode voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. » Et c'est fascinant parce que pendant qu'il est emprisonné, la Bible nous dit, « Mais l'Église priait. » Comment tu peux t'attendre à l'inattendu? Que peu importe les chaînes de ta vie, l'anxiété, la dépression, peu importe ce qui te lie, qui lie ta maison, pendant que c'est la persécution, mais l'Église priait. Je veux te réencourager ce matin à continuer, à recommencer peut-être, à prier, peu importe ce qui est dans les chaînes de ta vie en ce moment. Et ça nous dit que Paul était là, il était enchaîné et il dormait. Et le texte qui va comme ça au verset 8, verset 6, « Pendant que l'Église prie, Paul y est dans les chaînes. » Et la veille de son exécution, on est à quelques heures que l'histoire se termine, que Pierre meurt. Ça faisait quand même depuis quelques jours les pains sans levain. Mais on est à quelques heures que entre le miraculeux ou la mort de Pierre. Et si vous prenez des notes de trois mots que moi j'ai gardés sur mon cœur pour ma propre vie, parce que si je suis honnête avec vous, il y a une saison de ma vie, dans une situation de ma vie où je suis Sarah, j'ai été Sarah. Je vous ai témoigné que je suis Naaman, ça c'est sûr. Puis c'est comme si le Seigneur me dit, je veux faire de toi maintenant une Rod rose. Parce que pendant que Pierre est enchaîné, la Bible nous dit, tout à coup. Et ces mots-là, là, quand je faisais mes dévotions personnelles, ces mots-là ont ressorti comme la Bible. Le Seigneur me dit, pendant que tu pries, là, tout à coup je peux le faire. Tout à coup je peux agir encore. Et c'est l'histoire qui est arrivée. Il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pendant que l'Église prie? Un ange qui arrive dans la prison commence à casser les chaînes, à briser les verrous, à ouvrir d'une façon surnaturelle. Et Pierre, qui est lié, peut sortir. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il s'en va dans la maison où ses amis sont là. Et pourquoi je reviens à Rod? Pourquoi qu'elle est une héroïne de la foi? Parce qu'elle est la seule, pendant que tout le monde priait, elle a entendu. C'est la seule qui a osé croire que Pierre pouvait être vraiment délivré. C'est la seule qui a osé croire que Dieu était capable de libérer Pierre, même si tout le monde priait. Et ça, si on est honnête, là, et moi je me mets la première, je prie pour une situation. Puis le Seigneur il m'a dit, tu crois-tu encore que tout à coup je peux le faire? On n'arrête pas de prier. Des fois, on arrête. Puis des fois, on prie. Puis on ne croit pas qu'il peut le faire. Et elle, elle a osé croire. Et pourquoi que c'était difficile à croire? Rappelez-vous, qu'est-ce que les gars ils ont dit? Quand ils ont dit, elle a dit, c'est Pierre. Ils ont dit, t'es folle. Quand ils ont dit, t'es folle, ça veut dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Ils n'ont pas dit, yes, c'est vrai, Dieu y agit. Ils ont dit, ben non, ça se peut pas. Voyons, t'es folle. Quand ils ont dit après, mais non, c'est son fantôme, c'est encore pire. Ils ont pas que ça se peut pas. C'est que c'est déjà fait, il est mort. Et l'expression, son fantôme, c'est que c'est son âme qui revenait. Fait que pour eux autres, pendant qu'ils prient, ils sont sûrs que Dieu le fera pas. Si on est honnête. Des fois, dans nos vies, on est rendu qu'on prie. On le dira pas ouvertement, là, mais je vais être assez honnête pour vous dire que des fois, on prie. Puis à quelque part, il y a une place dans notre cœur qui dit, pas sûr que Dieu va le faire. Puis elle, elle a osé. Elle est une héroïne parce que quand elle a ouvert la porte, je vous rappelle que c'était dans une période de persécution. Soit qu'elle voyait le miraculeux, ou soit qu'elle pouvait se faire poignarder par un soldat qui venait saisir un autre croyant. Puis elle n'a pas eu peur d'avoir mal. Elle a eu assez de foi pour de dire, je crois que Dieu peut le faire. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Il veut te dire ce matin, n'aie pas peur d'être déçu. Peut-être que, comme Naaman, ça ne sera pas comme tu penses. Peut-être que ça ne sera pas au moment que tu penses. Puis peut-être que ça peut être totalement différent. Mais dans mon amour, je sais qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Et ce qu'il veut te dire aussi, c'est que reviens à la prière, mais une prière de foi qui croit que je suis encore capable de le faire. Et je veux juste vous rappeler, en terminant, que Sarah est vraiment tombée enceinte. Juste rappeler que Naaman a vraiment été guéri et que Pierre a vraiment été libéré. Alors qu'on va se lever, on va terminer la prière dans quelques instants. Juste qu'on va chanter une chanson.